VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Mali, il y aura un second tour à la présidentielle. La finale opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka à son principal opposant Soumaïla Cissé. Le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, a recueilli au premier tour le 29 juillet 17,8% des voix contre 41,42% pour Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, selon les résultats officiels. La participation a été de 43,06%. De Bamako, le compte-rendu de notre envoyé spécial, Jacques Aristide.
C'est un scénario qui était déjà dans tous les esprits ici dans la capitale malienne. Nombre d'électeurs prédisaient avant même le scrutin du 29 juillet dernier que le pays allait revivre à l'échéance de 2013. Les chiffres sont venus le confirmer hier soir. Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, qui a obtenu 41,42% des suffrages, affrontera à nouveau Soumaïla Cissé, qui est lui crédité de 17,80% des voix. En 2013, le président sortant de 73 ans avait battu son rival de 68 ans par environ 77% des voix exprimées. Des autres résultats annoncés de manière impromptue sur la chaîne publique ORTM, l'on retient celui du milliardaire Aliou Boubacar Diallo qui arrive en troisième position avec 7,95%, suivi de près par Cheikh Modibo Diarra et très faible score pour Kante Djene Bandiaye, la seule femme sur les 24 candidats au premier tour. Elle a obtenu 0,36% des suffrages. Mercredi, plusieurs candidats avaient dénoncé ce qu'ils appellent des résultats affectés par des irrégularités. Ils disposent de 48 heures pour d'éventuelles contestations avant que les résultats ne soient validés par la Cour constitutionnelle. Quant au second tour, il aura lieu le dimanche 12 août de Bamako. Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, politique en Côte d'Ivoire, l'Union européenne n'est pas tendre envers les autorités ivoiriennes. Dérive autoritaire du pouvoir, corruption, flagrante inégalité sociale, tels sont les reproches contenus dans un rapport confidentiel dont l'AFP a eu connaissance jeudi, où l'Union européenne s'alarme de la situation politique et sociale dans le pays avant la prochaine élection présidentielle de 2020. Les détails avec Bagassi Koura.
Selon le rapport, malgré une image rassurante d'une stabilité retrouvée de la Côte d'Ivoire, la population s'interroge de plus en plus ouvertement sur cette croissance qui ne lui semble pas ou peu bénéfique. C'est ce qu'ont écrit les ambassadeurs de l'UE dans ce rapport commun rédigé début juillet et qui ne devait pas être publié selon une source de l'UE citée par l'AFP. L'enrichissement de la classe dirigeante ces dernières années est parfois spectaculaire, souligne le rapport. L'UE pointe les failles politiques importante de la reconstruction et les fragilités non résorbées d'un pays peut-être moins solide et démocratique que sa bonne image pourrait le laisser penser. Face à ces difficultés, les autorités se montrent hermétiques aux critiques internes et externes et semblent désireuses de ne laisser aucun lieu de pouvoir leur échapper. Selon le texte, la confrontation entre un pouvoir qui restreint progressivement les espaces d'expression et une contestation sociale grandissante n'augurerait rien de bon pour l'échéance de 2020. S'inquiète l'Union européenne.
Au Zimbabwe, victoire du président Emmerson Mnangagwa sur son adversaire, le chef du MDC. Une victoire rejetée par le chef de l'opposition. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Emmerson Mnangagwa, qui dirige le Zimbabwe depuis la chute en novembre de Robert Mugabe, après 37 ans au pouvoir, a obtenu 50,8% des voix contre 44,3% pour son principal adversaire, Nelson Chamisa, lors des premières élections post-Mugabe, selon des résultats officiels définitifs. Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, a salué un nouveau départ avant d'appeler à l'unité pour construire un nouveau Zimbabwe pour tous. Mais l'opposition a immédiatement rejeté sa victoire, annonçant qu'elle allait saisir la justice. Les résultats sont faux. Nous allons dénoncer l'ensemble du processus devant un tribunal, a déclaré Morgan Komichi, le porte-parole du mouvement pour le changement démocratique, MDC, de Nelson Chamisa. Les Zimbabwéens s'étaient déplacés lundi dans le calme et en masse pour ces élections générales historiques qui devaient marquer un tournant dans l'histoire du pays où les élections ont été régulièrement entachées de fraude et de violence. Mais ces espoirs ont été touchés par la répression meurtrière de mercredi après l'annonce de la victoire écrasante de la ZANU-PF aux législatives. Le gouvernement a prévenu qu'il ne va tolérer aucune contestation.
Dans sa déclaration rejetant les résultats de la présidentielle ce vendredi, le chef de l'opposition Nelson Chamisa a accusé la Commission électorale nationale d'avoir refusé à son parti, le MDC, l'accès aux résultats avant l'annonce dans la nuit de jeudi à vendredi que son rival Emmerson Mnangagwa l'avait emporté d'une courte marge avec 50,8% des voix dès le premier tour.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en RDC, l'opposant congolais Moïse Katumbi a renoncé ce vendredi à atterrir à Lubumbashi pour rentrer dans son pays. Il va maintenant tenter de retourner en RDC par la Zambie, a indiqué à l'AFP sa plateforme électorale Ensemble. La veille, les autorités congolaises avaient interdit à l'opposant en exil l'accès à la RDC où il voulait déposer sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre. RDC toujours à 6 jours de la date butoir du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre, le président congolais Joseph Kabila a rencontré hier à Luanda son homologue angolais João Lourenço, président en exercice de la SADC, la Communauté économique d'Afrique australe. Fermé, le leader angolais avait, après une rencontre avec le président français Emmanuel Macron, invité M. Kabila à respecter les accords qui prévoient la tenue d'élections le 23 décembre, et à ne pas briguer un troisième mandat. Pour une analyse, Eddie Sango a contacté l'éditeur du magazine Géopolis à Kinshasa, Willy Kalangai.
Le président de l'Angola est en ce moment responsable de la FADEC. Il faut reconnaître que la FADEC a déjà pris plusieurs résolutions pour permettre à ce que le processus électoral en RDC se déroule dans la paix et dans la tranquillité. Et je pense qu'après le dernier réglage intervenu dans le pays, il est tout à fait normal que le président Kabila aille à Rwanda pour sinon informer ses homologues, mais aussi surtout la communauté de la FADEC de comment le processus est en train de se dérouler. Cette visite d'ailleurs a été, je pense, répétée plusieurs fois, mais qui vient quand même de se dérouler aujourd'hui.
Officiellement, la rencontre a eu lieu autour de deux axes, la coopération sur l'énergie et les transports.
Sur le plan bilatéral, l'Angola et le Congo ont déjà plusieurs commissions mixtes pour mettre en place une stratégie de coopération et sur le plan de l'énergie. Je crois que l'Angola voudrait aussi faire une coopération de la rue, pénétrer dans l'espace congolais et trouver le moyen de coopérer et pour avoir l'énergie. L'énergie, je vois ici Inga, l'énergie, je vois aussi le bloc pétrolier. Il y a énormément de possibilités de coopération entre les deux. Vous avez appris qu'on avait ouvert la ligne c'est une ligne extrêmement importante. Si en Angola, elle est déjà ouverte, mais du côté congolais, il faut beaucoup d'aménagements pour que ça arrive jusqu'à Lubumbashi, jusqu'à Kidome.
Qu'en est-il de la demande du président angolais après la rencontre à l'Élysée avec son homologue français, demande adressée au président Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et à la constitution qui les lui interdit.
Il y a eu même des échanges de correspondance. Le vice-premier ministre a convoqué d'abord l'ambassadeur de l'Angola à Kinshasa et celui du Rwanda pour pouvoir avoir les éclaircissements sur les propos tenus à Paris. Entre, il y a eu quand même des choses qui ont été bougées et il était promis que le président de la République du Congo avait déjà dit qu'il allait respecter la constitution. Et ça s'entend, la spéculation qui a eu autour de cette problématique a quand même un peu paralysé les bons rapports entre l'Angola et la RDC. Et je vois que la rencontre, c'est aussi pour rassurer les uns et les autres qu'on est au fixe, que les choses vont avancer très bien et que les élections sont en train d'être réalisées.
Entre-temps, il y a toujours un flou du côté de la famille politique du président Joseph Kabila au sujet d'un possible troisième mandat.
Je pense que les maçons ont été au pied du mur qu'on n'est pas lu. Allons au mur, allons voir ce que ça va donner. Il reste quelques jours pour le savoir.
l'éditeur du magazine Géopolis à Kinshasa, Willy Kalengayi. Et pour terminer, toujours en RDC, le ministre de la Santé, Oli Ilunga, est de retour à Kinshasa après avoir officiellement lancé jeudi à Mangina, dans la province du Sud-Kivu, la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée dans la zone de santé de Mabalako, dans le territoire de Beni.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.